Moi, donc, c'est créé à l'initiative d'un certain Raymond Leblanc, qui est un résistant et qui, je pense, à l'époque, a fait publier notamment des romans sentimentaux. Donc, c'est un homme d'affaires. Tintin, donc le personnage, est déjà hyper populaire dans les années d'avant-guerre. Il y a quasiment que ça en Belgique qui puisse marquer. Ça dépasse déjà le cadre de la Belgique. Donc, il voit là opportunément une manière d'utiliser ce personnage-là. Je pense que c'est le seul personnage vraiment emblématique en Belgique qui puisse utiliser. Donc il lance ce journal avec Hergé qui est directeur artistique. Donc, à les débuts, c'est tout est à reconstruire, tout est possible. Jacobs a quand même déjà dessiné avant dans une revue qui s'appelait Bravo, où il a repris Flash Gordon, donc il s'est un peu aussi aguerri au langage de la bande dessinée. Bon, il y a Hergé qui est là, et puis il y a Paul Cuvelier qui aborde la bande dessinée avec un regard qui est plutôt celui d'un dessinateur, d'un peintre très classique. Quelqu'un qui aurait voulu être Raphaël à une époque où c'était plus possible d'être Raphaël, quoi. Il était né avec 300 ans trop tard. Les premiers numéros sont effectivement une très grande qualité. Je pense que c'est surtout les premières années de Tintin qui sont intéressantes. En fait, je pense que ça se dédite beaucoup plus vite que chez Spirou. Enfin bon, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'à vers le milieu des années 50, c'est déjà un peu parti. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne retrouve pas dans Tintin cette espèce d'anarchie douce qu'on retrouvait dans Spirou. En tout cas, beaucoup moins. Peut-être un peu chez Machereau avec Chlorophylle, puisque lui va aller de Tintin à Spirou. Mais il y a un côté plus, enfin, ce qu'en Bruxelles on dit, plus un côté plus safe, hein, qui est aussi amené par Hergé, qui a une influence considérable sur ses collaborateurs, en tout cas dans les premières années, au moment où il prend à cœur son rôle de directeur artistique. Et donc, à l'exception peut-être de Cuvelier, pour laquelle il avait une grande admiration, mais il va pousser clairement Jacobs, Martin, Van der Steen et d'autres encore à rentrer dans cette esthétique de ce qu'on appellera plus tard la ligne claire, dont ce dessin très lisible, qui est sans ambiguïté, cette espèce de dessin épuré comme ça, qui va donner des choses intéressantes d'ailleurs, mais qui va parfois amener certains auteurs à adopter une esthétique qui correspond peut-être pas à leur impulsion naturelle, quoi. Le gros événement quand Tintin sort, c'est le secret d'Espadon. Cette histoire n'est pas prévue pour les albums, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on parle aujourd'hui de prépublication, à l'époque il n'est pas question de prépublication. Le secret d'Espadon, ça paraît, je pense que ça fait pas loin de 150 pages. C'est absolument pas du tout au départ conçu pour paraître sous forme d'album. Ça paraîtra sous forme d'album suite au succès dans la revue, à la demande de certains lecteurs qui ont perdu certains numéros et qui voudraient pouvoir le relire entièrement. Et donc là, il y a une nouvelle ressource financière qui se dégage avec les albums, mais on n'en est pas encore là du tout à ce moment-là. Que ce soit Tintin ou Spirou, à partir du moment où l'album arrive et où l'auteur commence doucement plus à travailler en fonction d'un truc de 46 pages qui va être relié plus que d'être dans cette immédiateté qui est celle de la revue hebdomadaire, je pense que la revue commence comme ça doucement un petit peu à perdre peut-être pas de son intérêt, mais en tout cas de ce qui faisait vraiment sa nécessité au départ. Et le secret d'Espadon, bah oui, on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Jacobs nous balance une Troisième Guerre mondiale d'emblée, un récit, on l'a souvent dit, mais un peu faustien, très théâtral, très grandiloquent, puisque lui, à l'origine, est un baryton, et puis une espèce de synthèse aussi dans Blake et Mortimer de toute une série d'auteurs anglais. Enfin, il y a du Conan Doyle, il y a du Herbert George Wells, mais il y a aussi des trucs du cinéma, enfin, entre M. Le Maudit, des choses comme ça, Fritz Lang, etc. Enfin, tout ça, il le concentre de nouveau dans un média pensait-on à l'époque, à vocation populaire. Quelque chose qui est censé toucher la jeunesse, quoi. Et puis Tintin a une fonction aussi très didactique qu'on trouvait déjà dans Spirou, qui est peut-être un peu plus appuyé, enfin peut-être pas moins appuyé, mais qui est moins contrebalancé par cette espèce de fantaisie qu'on retrouvait dans le journal Spirou. D'ailleurs, à un moment donné, Tintin va recruter très brièvement Franquin. Quand il crée Modeste et Pompon, c'est un petit peu aussi parce que ceux qui dirigent la revue se rendent compte que le lecteur s'ennuie peut-être un petit peu dans Tintin, et puis Franquin ne va pas y rester très longtemps. À mon avis, il s'entend bien qu'il n'est pas vraiment à sa place. Machereau quitte Tintin à la fin des années 50 pour aller chez Spirou. Il est peut-être plus d'ailleurs dans sa famille naturelle, lui qui était un petit peu peut arriver par accident dans Tintin, quoi. Mais ça reste une revue de très grande qualité, en tout cas sur les toutes premières années. Je voulais, les maquettes sont absolument... J'ai l'image évidemment du premier numéro de Tintin avec cette image du Temple du Soleil. Bon, bah, voilà, graphiquement, c'est très fort. C'est extrêmement soigné, hein. Ça aussi, Hergé avait ce côté insupportable dans la mesure où il trouvait un petit peu que tout ce qui ne venait pas de lui était un petit peu vulgaire, et il trouvait que Spirou était une revue un petit peu vulgaire. Mais rendons-lui cela, c'est clair que les premiers numéros, ça avait une classe folle, quoi. C'était vraiment de très très beaux objets, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'on, même si ça prend des formes différentes, hein, mais que ce soit chez Spirou, chez Tintin, il y a un souci de qualité qui est en tout cas très présent. Alors on dit oui, ok, on s'adresse à des enfants, c'est une revue qui se veut populaire, qui essaie de toucher un large public, etc. Mais on n'est pas du tout dans ce côté putassier qui est porté aujourd'hui par des directeurs marketing où on est prêt à ramper dans le caniveau pour autant que ça marche. Ça va marcher au-delà des espérances des éditeurs, mais voilà, il y a une exigence qualitative qui est là, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de secret, bah, à ça.